Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour à toutes, Torah Box Radio depuis Jérusalem. Je suis très contente de vous accueillir pour notre émission Judaïsme au féminin. Je suis donc la rabbinite Léa Benaïm. J'ai la chance et le mérite chaque semaine de vous proposer d'aborder un des sujets du judaïsme et de l'aborder avec un regard féminin et de le développer et de l'analyser pour nous aider en vérité à mieux comprendre ce qu'Hachem attend de nous et à mieux vivre notre judaïsme. Aujourd'hui, Bezrat Hachem, nous allons parler de Yom Kippour, ce très très grand jour, qu'on pourrait presque dire le jour le plus grand de l'année, qui arrive à grands pas. Je voudrais d'abord vous rappeler que si vous avez quelque chose à nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante radio@torah-box.com et Bezrat Hachem, on tâchera de vous répondre. Je vais vous laisser quelques minutes pour vous préparer à écouter donc ce que j'ai à vous raconter avec une petite pause de publicité. Je vous attends juste après. Donc Yom Kippour, qu'est-ce que Yom Kippour ? Comment vivre Yom Kippour ? Comment comprendre Yom Kippour ? Comment faire tshuva ? Comment se faire pardonner. Bezrat Hachem, après la pause de publicité, à tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Torahbox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le gan, c'est la sauce du vrai Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le gan ? C'est l'ichement, mizvota, de garder le mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box délivrent sur mesure pour vous. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour à toutes dans notre émission Judaïsme au féminin. Donc, comme je vous l'ai dit avant la pause de publicité, aujourd'hui, Bezrat Hachem, nous allons ensemble essayer de découvrir et d'analyser et de développer et de comprendre l'essence de la journée de Yom Kippour, ce jour tellement, tellement élevé, ce jour qui est appelé Yomo Shel HaKadosh Baruch Hu, le jour d'Hachem, ce jour où le peuple d'Israël tout entier est pardonné, ce jour où nous sommes comparés à des anges, ce jour où nous mettons de côté tout ce qui concerne le corps, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous ne nous lavons pas, nous sommes entièrement consacrés à notre rapport avec Hachem, à notre rapport à la spiritualité, ce jour qui est appelé Mikveh Israël. Mikveh Israël, c'est un jour qui nous purifie. Rabbi Akiva nous dit « Ashrechem Israël, soyez heureux les Juifs, parce que qui c'est qui vous purifie ? C'est votre Père. Ce jour, ou dans l'année, où HaKadosh Baruch Hu, il nous purifie, il nous pardonne, ce jour qui est appelé le jour du grand pardon. Ce jour, en français, ça sonne un petit peu, excusez-moi, ça sonne un petit peu comme ça, film, mais c'est un jour qui est très, très, très élevé. C'est un jour où nous avons la chance d'être nettoyés, comme si que nous nous trempons dans un mikvé qui va nous purifier entièrement de tout ce que nous avons fait de pas comme il faudrait l'année passée, un jour donc tellement, tellement, tellement élevé. Et combien est-ce que c'est important de comprendre la grandeur de ce jour et de comprendre comment est-ce que nous pouvons le vivre, comment est-ce que Bémet nous pouvons mériter cette tshuva, à savoir que tout celui qui veut faire tshuva Hachem, il l'attend. Dans la Amida, nous avons une bracha concernant la tshuva qui s'appelle Arotze Baruch Ata Hachem, Arotze Bitshuva Hachem, veut notre tshuva. On a beaucoup parlé de la notion de tshuva dans les précédentes émissions. On n'a pas terminé puisque c'est le sujet du jour. Comment revenir vers Hachem? Comment mériter donc d'effacer ce qui est arrivé? Imaginez-vous quelqu'un qui aurait cassé quelque chose, on lui dit non, tu peux réparer ce que tu as fait, tu as fait de la peine à quelqu'un, a priori tu lui demandes pardon, tu regrettes du fond du cœur, tu peux réparer, tu peux effacer ce que tu as fait. On dit que la tshuva a été créée même avant ce monde, mamash aux prémices de ce monde, elle a été inventée, elle a été créée par Hachem, et que c'est un merveilleux cadeau qu'Hachem nous donne de pouvoir effacer à travers le fait de regretter, à travers le fait d'exprimer à Kadosh Baruch Hu combien est-ce que nous voulons plus refaire ces erreurs. Donc, Yom Kippour. D'abord, petite anecdote, vous savez, on parle beaucoup de Rabbi Israël Salanter, ce grand donc de la Tnouat à Moussar, qui nous apprend à travailler nos midot, qui nous apprend la place des midot. On raconte que qu'est-ce que Rabbi Israël Salanter faisait juste avant Yom Kippour. On pourrait croire qu'il était plongé donc dans des pensées très 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 élevées de tshuva, de regret, de pardon, de pleurs. Eh ben, on nous apprend qu'avant Yom Kippour, Rabbi Israël Salanter, qu'est-ce qu'il faisait? Il réparait les tables et les chaises à la synagogue pour pouvoir permettre aux juifs qui allaient arriver à Yom Kippour de pouvoir prier dans la bien assis avec tout ce qu'il faut, avec toutes leurs aises. On apprend déjà de là combien est-ce que la place de l'autre, elle est importante dans notre tshuva. Bien sûr, la tshuva, c'est revenir vers Hachem dans toutes les mitzvot qui sont ce qu'on appelle Ben Adam, l'amakom, entre nous et HaKadosh Baruch Hu, des mitzvot comme la kashrut, comme Shabbat, c'est faire tshuva sur ces mitzvot, mais c'est également toutes les mitzvot qui concernent ma relation à l'autre, Ben Adam la Chavero, toutes les personnes que j'ai pu blesser, toutes les personnes à qui j'ai pu manquer de respect, toutes les personnes à qui j'ai dit sur lesquelles j'ai dit Chazo Shalom, Dieu la Shanara, combien est-ce que c'est important dans notre préparation à Yom Kippour de pouvoir mamash regretter et réparer en téléphonant, en appelant, en demandant pardon réellement, tout ce qui concerne la relation à l'autre. Vous savez, il y a un rav qui s'appelle le rav Eyal Vered qui dit que à Yom Kippour, notre juge, c'est le Ham Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que combien est-ce que les mitzvot de Ben Adam, la Chavero, parce qu'on dit en vérité que à Yom Kippour, Dieu nous pardonne tout. Si on revient vers lui sincèrement, alors Dieu nous pardonne tout. Mais ce qu'on a pu faire envers autrui de négatif, ce qu'on a pu blesser, ce qu'on a pu faire comme mal avec l'autre, si on a volé quelque chose, si on l'a, vous savez que même empêcher de dormir quelqu'un, ça s'appelle du vol. Tout ce qu'on a pu faire de mal par rapport à autrui, on doit d'abord le réparer avant, le demander pardon et essayer donc de corriger ça avant Yom Kippour pour pouvoir réellement mériter le pardon total. Donc combien est-ce que c'est important? Donc je vous ai dit, aujourd'hui on parle de Yom Kippour et on va encore essayer de comprendre quelques notions autour de la tshuva qui vont nous permettre d'arriver, on va dire, à Yom Kippour et de vivre cette journée dans toute son essence et dans toute sa force, dans toute sa splendeur de connexion totale avec Hachem. Vous savez que qu'est-ce qui nous éloigne d'Hachem? Ce qui nous éloigne d'Hachem, ce sont nos fautes et c'est également la matérialité. Ça pourrait être la matérialité. Je m'explique. Les fautes nous éloignent d'Hachem, ça c'est clair. À chaque fois que je fais une faute, je mets un écran entre Hachem et moi. Et donc je m'empêche de voir et de vivre la lumière d'Hakadosh Baruch Hu dans ma vie. Le Rav Dessler, il parle de vitres sales. Il dit lorsqu'une personne, elle fait des fautes, c'est comme une personne qui se trouve dans une maison et dont les vitres sont sales. Et donc si les vitres sont sales, elle ne peut pas voir la lumière du soleil, bien que la lumière du soleil illumine tout le temps. Mais c'est elle qui à entraver la lumière du soleil à rentrer dans sa maison. Et donc ça, ce sont les fautes, les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère. C'est ça qui nous empêche donc de vivre la bonté d'Hachem, de sentir Hachem dans notre vie et de sentir toute la rachamim, la miséricorde d'Hachem. Il y a également, donc on dit, la matérialité qui nous éloigne d'Hachem. Le corps, c'est un outil pour la neshama. On est censé utiliser ce corps pour servir Hachem. Par exemple, lorsque je mange et que je fais une bracha, je sers Hachem grâce, j'élève l'aliment, j'élève la matérialité grâce au fait que je fais une bracha avant de manger. Le jour de Yom Kippour, on nous demande de mettre de côté tout ce qui a rapport avec la matérialité et avec le corps. Un jour dans l'année, un seul jour dans l'année, on nous dit, le corps, tu dois l'utiliser et le mettre au service de Dieu. Tu dois utiliser tes mains pour faire du chesed, pour faire du bien à autrui. Tu dois utiliser tes jambes, tes pieds pour aller marcher, faire une mitzvah, pour aller à la synagogue, bien sûr, tout ça. Mais ce jour-là, on nous demande de diminuer les besoins du corps pour laisser la place à la neshama. Diminuer les besoins du corps, donc ce jour-là, on ne se lave pas, on ne mange pas, on ne boit pas, et tout ce qui est donc en rapport avec le corps. Et donc, on a dit que, étant donné que c'est un jour où nous allons privilégier notre rapport à Hachem, notre rapport à la spiritualité, on doit bien arriver prêt avec à vouloir faire tshuva, à vouloir revenir vers Hachem. Et comme on l'a expliqué, la tshuva, il y a ce que j'appelle la tshuva de fond et la tshuva de forme. Ça veut dire quoi? La tshuva de fond, c'est comprendre et réaliser combien est-ce que je veux pas faire autre chose que la volonté d'Hachem. Combien est-ce que je dois regretter du plus profond de mon âme d'avoir désobéi à mon père, d'avoir fait des choses qui m'ont éloigné de lui. Ça, c'est la tshuva de fond. C'est réalisé donc à Yom Kippour et les jours, bien évidemment, qui précèdent, puisque la Seret Yom Tshuva, c'est toute cette période que nous sommes en train de vivre et de traverser, qui sont des jours avec un très, très, très grand potentiel. On dit que ce sont des jours où les 13 attributs de bonté d'Akadosh Baruch Hu, de Rachamim, se déverse sur le monde. Le Rav Pinkus, il dit, c'est comme des gouttes de bonté, des tuyaux de bonté, comment il appelle ça, des tsinors, des conduits de bonté qui se déversent dans le monde, juste en préparation, donc, au jour de Yom Kippour, nous allons être pardonnés. Hachem, il nous met tout ce qui est à notre, tout ce qui pourrait nous aider, donc, grâce à ces 13 attributs de bonté, pour pouvoir réellement réussir à changer et à regretter et à se débarrasser de toutes les choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes, toutes les choses qui empêchent notre neshama de se connecter à Hachem, toutes les avérotes que nous, malheureusement, nous faisons. Donc, la tshuva de fond, c'est d'abord prendre conscience. C'est d'abord réaliser combien Hachem il est bon, combien est-ce que je veux faire sa volonté, combien est-ce que je ne veux pas faire des choses qui m'éloignent de lui, combien est-ce que je veux penser à lui, je veux le retrouver dans ma vie, je veux le vivre dans ma vie à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la tshuva de fond. Évidemment, il y a la tshuva de forme. Ça suffit pas d'avoir plein de bonnes idées. Ça suffit pas de vivre avec des rêves. Il faut, en pratique, faire des changements. Il faut arrêter, par exemple, de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut arrêter de se laisser aller à la colère, à l'orgueil, toutes les choses qui nous éloignent d'Hachem. Il faut essayer, donc à l'approche de Yom Kippour et à Yom Kippour, de regretter sincèrement toutes ces choses-là qui sont pas bonnes pour moi et de mettre en place un plan d'attaque. C'est un plan d'attaque, ça veut dire en même temps, parallèlement à la tshuva de fond dans laquelle je regrette, en même temps, j'essaye de voir comment est-ce que je pourrais ne plus tomber dans ces écueils du Yetzerara. Et pour ça, ça demande du temps. C'est pour ça qu'il faut se préparer à Yom Kippour. Combien est-ce que c'est important dans notre judaïsme de se préparer? De se préparer aux choses, c'est essentiel. La préparation dans le judaïsme, elle est essentielle. On voit qu'on a tout le mois de Elul pour nous préparer au Yamim Noraim, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. On voit qu'on a tout le Homer, la Sphira du Homer pour nous préparer à la fête de Shavuot. Combien est-ce que la notion de préparation, elle est essentielle? Et donc, pour se préparer à Yom Kippour, on a la chance de pouvoir profiter donc de ces attributs de bonté qui vont nous aider à faire tshuva, qui vont nous aider, ils vont aider notre tshuva, ils vont nous aider à opérer les changements qu'on veut réaliser. Et il faut savoir donc que ça demande de consacrer du temps à ça. On peut pas comme ça arriver à Yom Kippour, les mains dans les poches, sans avoir fait de bilan à l'avance, sans avoir fait de ce qu'on appelle en hébreu de cheshbon nefesh. Il faut passer en revue nos actions, il faut passer en revue ce qu'on a fait de mal, ce qu'on a fait de bien également, parce que je vous rappelle que pour pouvoir le Ravi Roucham de Mir, si je ne me trompe pas, il dit que lorsqu'on veut corriger des défauts, il faut qu'on connaisse nos qualités. Pourquoi ? Parce que les qualités sont les outils que Dieu nous a donnés pour corriger nos défauts. Donc, lorsque nous faisons un travail donc de bilan avant Yom Kippour, lorsque nous nous préparons à Yom Kippour à travers le fait donc de regarder tous les points qui sont à corriger, toutes les choses que j'ai fait de mal, etc. Aussi, regarder les qualités qu'Hachem m'a données, parce que c'est grâce à ces qualités que je vais pouvoir opérer des changements. Et être conscient de nos qualités, c'est un travail qui est essentiel au changement, qui est essentiel à la tchouva, sans lequel je ne peux pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas ? Parce que si je fais un bilan et que je vois combien de choses je ne fais pas comme il faut, combien est-ce que je fais d'averot, combien est-ce qu'il y a de mitzvot qui ne sont pas exactement comme il faudrait, de brachot qui ne sont pas tout à fait avec la kavana, de mots dans la tefila que j'ai peut-être un petit peu comme ça bafouillé ou sauté, combien, etc. Eh bien, lorsque je réalise toutes les choses négatives que j'ai fait, quel est le danger ? Ben oui, vous l'avez compris. Le danger, il est de tomber dans le désespoir et dans la tristesse. Et il faut savoir que c'est ce que le Yetzer Hara veut. Le Yetzer Hara veut que nous tombons dans le désespoir et dans la tristesse. Et pour pouvoir ne pas tomber dans le désespoir et dans la tristesse, je vous donne comme exercice, avant Yom Kippour, donc pendant cette semaine de la Aseret Yemei Teshuva, de travailler, donc faire le bilan de ce que j'ai fait de mal, mais également le bilan de ce que j'ai fait de bien. Le bilan, la liste des qualités qu'Hachem m'a donné, les mitzvot que j'ai accomplis cette année, également les passer en revue. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui nous donne des forces. Ça nous redonne confiance en nous qu'on est capable d'opérer des changements, qu'on est capable d'être meilleur. Et après qu'on a fait ce travail, donc on a vu les outils qu'Hachem nous a donné, donc nos qualités qui vont nous aider à travailler, qui vont nous aider à corriger, qui vont nous aider à rattraper, à réparer ce qu'il y a à réparer, on est obligé donc de passer à la partie technique, de voir comment est-ce que je pourrais travailler par exemple cette mida qui me fait tellement défaut, si c'est la colère par exemple, si c'est la jalousie, à travers le fait peut-être d'étudier un livre cette année, de prendre sur moi d'étudier un livre sur ce trait de caractère que j'aimerais travailler, ou à travers le fait d'étudier les halakhot. D'ailleurs, il faut savoir quelque chose, c'est que il y a plusieurs formes d'averot. Il y a les averot, les fautes que nous faisons parce que réellement c'est difficile. On est honnête, c'est difficile. Exemple, je viens d'entendre quelque chose de très très grave et j'en peux plus pour le raconter à mon mari, mais c'est du lashon hara. C'est difficile de se retenir, on a du mal. On a un grand yetzer hara, surtout nous les femmes qui aimons beaucoup beaucoup parler. C'est vrai que ça demande beaucoup beaucoup d'efforts de notre part. Il y a des mitzvot, ok, qui ne sont pas difficiles, mais que malheureusement, nous ne sommes pas assez conscients, nous oublions, on est très tête en l'air. Vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup, beaucoup les enfants hyperactifs, mais je vais vous avouer un secret, on est tous un petit peu hyperactifs, on a tous un petit peu des difficultés à nous concentrer. Et donc, très souvent, on oublie, hop, on a oublié la bracha harona, la bracha qu'on fait après avoir mangé un aliment. Ou bien on essaye de prier, on essaye de faire notre tefila, et puis notre esprit, il part dans tous les sens. Et il y a des mitzvot qui demandent pas beaucoup, beaucoup d'efforts. Dire merci à quelqu'un, c'est une mitzvah de reconnaissance qui demande pas beaucoup d'efforts, et pourtant on peut parfois oublier ou ne pas avoir conscience. Donc dans ce bilan que nous allons faire, c'est important de réaliser quels sont les mitzvot sur lesquels j'ai du mal, qui me demandent un travail particulier et donc sur lequel je vais devoir mettre des efforts, je vais devoir faire des tefillot dessus, je vais devoir étudier dessus, et je vais devoir essayer de trouver des techniques. Je me rappelle que j'avais une rabbinite, la rabbinite Riva Lapidot, qui nous avait raconté que elle avait une élève qui s'était mariée et que lorsqu'elle s'était mariée, elle avait accroché au téléphone. Bon, à l'époque, c'était pas des téléphones sans fil ou des téléphones portables, c'était donc peut-être un petit peu plus facile à gérer. Elle avait accroché au téléphone « Netzor Lashon Hara Mera », une phrase autour du Lashon Hara, « Ne dis pas de Lashon Hara, surveille ta bouche, surveille ta langue ». Et elle avait appelé donc la rabbinite Lapidote. Elle lui avait dit, ça y est, je suis prête. Alors la rabbinite lui a dit, à quoi tu es prête? Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, je sais que j'ai une tendance à des fois dire du lashon hara. Et là, je viens de me marier. On vient de recevoir le téléphone à la maison. Je suis toute contente, mais je veux pas que ce téléphone soit un outil pour moi pour faire du mal et pour dire du lashon hara, pour dire des paroles inutiles, des paroles de lashon hara. Donc, je me suis mis une étiquette sur le téléphone, me rappelant l'importance de faire attention à mes mots. La rabbinite nous racontait ça en rigolant et elle nous disait c'est pas mal. Pourquoi? Parce que c'est vrai que il faut des tactiques, il faut des trucs pour pouvoir contrer le yetzer hara. Et c'est le moment, donc pendant ces aseret yemei teshuva, de réfléchir quel truc je pourrais faire pour essayer donc de réussir à me taire. Peut-être imaginer que dès que j'ai envie de dire du lashon hara, je vais mettre une machine à laver, par exemple. Je ne sais pas, je vous invente comme ça n'importe quoi. Mais donc il y a ces mitzvot qui demandent de nous des efforts particuliers. Et il y a également ces mitzvot qui ne sont pas difficiles, mais combien est-ce qu'on doit essayer de ne pas les oublier, de mettre l'accent dessus. Et là-dessus, ça demande un autre travail. Ça demande un travail aussi de prise de conscience, de réaliser que lorsque je fais ma tfila, c'est important. Ça demande, Bekitsour, tout ce que je vais vous dire jusqu'à présent, c'est que la tshuva, c'est un travail sérieux. C'est un travail sérieux, c'est un travail qui demande de s'asseoir, qui demande de réfléchir, qui demande aussi de se conseiller, qui demande d'être intelligent, on est toutes intelligentes, hein, je vous assure, mais qui demande de la ruse parfois, qui demande de chercher des moyens, voilà, chercher des moyens, essayer de prendre conscience, essayer de se mettre des rappels dans le téléphone, de demander parfois à une amie de nous aider également dans ce chemin. Si on sait par exemple qu'on a une amie avec laquelle, si on fait une travruta, si on étudie ensemble les lois par exemple de la tsniout, ça va m'aider à prendre conscience parce que j'aime bien comment elle me parle. Ça aussi, ça peut être un moyen. Donc, je vous résume ce qu'on a dit jusqu'à présent. Après, je vous laisse une petite pub, un petit espace publicitaire. Je vous rappelle, Yom Kippour, c'est un grand jour. On s'y prépare, on ne laisse pas arriver comme ça. On s'y prépare en faisant tshuva, en réalisant qu'il y a la tshuva de fond et qu'il y a la tshuva de forme. Qu'il y a différentes formes d'averot, qu'il y a les averot que je ne pourrais ne pas faire mais que j'ai oublié ou que je n'ai pas conscience et qu'il y a des averot qui sont plus difficiles pour moi. Dans les deux cas, je dois essayer de rechercher, de réfléchir comment contrer ces différentes formes de yetzer hara. Je vous propose donc cette petite pause de publicité et on se rejoint tout de suite après. יש רגעים אתה מתחיל את השגרה וזה קשה, לא נורא גם אם בחוץ הכל חשוך לא נראה תעלה השמש בזריחה ויש בך את הכוח לראות מתוך החשיכה תן לי
בחוץ הכל חשוך לא נראה תעלה השמש בזריחה ויש בך את הכוח לראות מתוך החשיכה אני תמיד אזכור, מודה אני לך כל בוקר.
Rebonjour à tous, donc bienvenue à la deuxième partie de notre émission Judaïsme au féminin. Bienvenue pour toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Et on continue donc à se préparer à Yom Kippour. On a expliqué pas mal de choses autour de la tchouva, autour de l'essence de cette journée de Yom Kippour. Et je veux qu'on continue donc sur le point que j'ai abordé juste avant l'espace publicitaire, en vous disant que il y a différentes formes d'Averot. Une des formes d'Averot également, qu'il faut savoir, c'est ce que j'appelle les Averot qu'on fait par ignorance, parce que je ne sais pas. Vous savez ce qu'on dit aujourd'hui ? Nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est vrai qu'on l'ignore parfois. Et ça aussi, c'est dommage. Je vous ai dit juste avant la pause qu'il y a des Averot qui sont vraiment difficiles pour nous, qu'on a du mal à changer en nous, qui sont des traits de caractère. On a du mal à ne pas s'énerver, par exemple, pour celles qui sont coléreuses. On a du mal à ne pas jalouser, ça demande un travail de fond. Il y a aussi des choses qui ne sont pas difficiles, mais on ne sait pas, on ne connaît pas. On ne sait pas, par exemple, comment gérer borer Shabbat. Vous savez, borer, c'est trier. Est-ce qu'on a le droit de prendre dans une salade les légumes que je veux et pousser les légumes que je ne veux pas, etc. Par exemple, le Shabbat, ou des halachot autour donc des brachot. Est-ce que, voilà, j'ai été aux toilettes et j'ai oublié de faire Asher Yatzar et je m'en suis rappelé une demi-heure après. Est-ce que je dois le refaire, je ne dois pas le refaire? Il y a beaucoup donc de mitzvot ou de averot que nous faisons, ou de mitzvot que nous délaissons parce que nous ne connaissons pas la halacha, par ignorance. Et ça, combien est-ce que c'est dommage? Combien est-ce que c'est triste? Parce que ce n'est pas difficile en vérité, c'est juste qu'on ne sait pas. Donc dans la tchouva également, je vous propose de chercher à apprendre les halachot, de chercher à découvrir qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi, si c'est à travers des livres, si c'est à travers des groupes WhatsApp pour celles qui ont Torah Box, c'est très fort dans ça, il envoie régulièrement des halachot, je vous recommande. Pour ce qui est des halachot de tzniout, je ne savais pas que mettre une jupe comme ça c'était interdit, je ne savais pas. Parfois, ben mettre c'est difficile, mais parfois non, si je l'avais su, j'aurais changé, j'aurais pas acheté une jupe comme ça, c'était pas si difficile. Ça arrive aussi, ça arrive que même dans la tzniout, qui a priori est une mitzvah difficile pour la femme, il y a parfois où on achète des choses parce qu'on ne sait pas et que si on avait su, on n'aurait pas acheté. Donc important également à prendre en compte de travailler, de rechercher à connaître la halakha. La halakha, c'est ce qu'Hachem, c'est la Torah, c'est ce qu'Hachem, c'est le mode d'emploi de ce monde. Donc combien est-ce que c'est important de connaître la halakha, d'apprendre la halakha? Maintenant, évidemment, on ne peut pas tout connaître en une fois, mais ce qui est important, c'est le suivi. C'est réussir à se consacrer des moments pour apprendre la halakha régulièrement. Et je vais vous dévoiler quelque chose de très important. Extrêmement important même, je vous dirais. Lorsqu'on fait tchouva, on sait quelque part à l'intérieur de nous qu'on va refaire ses fautes. On est d'accord? On n'est pas devenu des anges. Et pourtant, on nous demande de faire tchouva. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez, c'est extraordinaire ce que j'ai lu là-dessus. Lorsqu'on fait tchouva, d'abord, il faut que réellement, du fond du cœur, on regrette de s'être éloigné d'Hachem. Mais vraiment, du plus profond de notre être, qu'on regrette de ne pas avoir suivi son chemin, de ne pas avoir fait ce qu'il attend de nous, de s'être éloigné de nous-mêmes en vérité, puisque nous-mêmes, notre personne, c'est une parcelle divine. Et donc, lorsqu'on s'éloigne d'Hachem, on s'éloigne de nous-mêmes, on vit dans le mensonge. D'abord, la tchouva, c'est ça, c'est regretter sincèrement, c'est avouer. On sait qu'il y a plusieurs parties à la tchouva. Il y a le fait donc de regretter, le fait d'avouer ses fautes avec la bouche, c'est important de le dire avec sa bouche, de le dire avec des paroles, de dire à Hachem, je regrette d'avoir manqué de respect à ma mère par exemple, Hachem, je regrette d'avoir porté cette tenue ce jour-là qui était tellement provocante, Hachem, je regrette, c'est important. Et de prendre sur nous de ne plus recommencer. Mais comment prendre sur nous de ne plus recommencer alors que je sais pertinemment que je vais recommencer, qu'il y a des choses que je vais forcément retomber, je me connais, je ne suis pas devenue un ange du jour au lendemain, alors qu'est-ce que Hachem me demande quelque chose d'impossible, d'improbable? C'est pas logique, on est d'accord? Alors les Chachamim nous disent que lorsque tu promets quelque chose, que tu promets de ne plus recommencer, d'abord tu dois être complètement dans cette promesse. Ça veut dire quoi? Espérer que je ne vais pas recommencer, vouloir ne pas recommencer, du fond du cœur vouloir. Et ça ne suffit pas. C'est très important, mais ça ne suffit pas. Pour pouvoir que cette promesse, elle tienne, pour cette promesse, elle vaille quelque chose, il faut, les Chachamim nous disent qu'il faut prendre sur nous ce qu'on appelle en hébreu une Kabbalah. C'est quoi une Kabbalah? Une Kabbalah, ça va être quelque chose que nous allons prendre sur nous, évidemment toujours bli neder, sans faire de vœux, quelque chose que nous allons prendre sur nous et qui va être quelque part notre avocat défenseur à Yom Kippour. Ça veut dire quoi notre avocat défenseur ? Ça veut dire qu'il y a tellement de domaines dans lesquels je devrais m'améliorer, il y a tellement de choses que je dois apprendre, il y a tellement de choses que je dois perfectionner, il y a tellement de choses. Mais si je choisis une chose et une petite chose, très important que ce soit une petite chose, si je choisis une petite chose que je prends sur moi, ok ? Et cette petite chose que je prends sur moi, je vous propose de demander à Hachem, de prier à Hachem pour qu'il vous éclaire quelle est cette petite chose que vous allez prendre sur vous. Si je demande à Hachem de m'éclairer et de me trouver, donc de me donner une idée, de prendre sur moi une petite chose qui va en vérité me rappeler combien est-ce que je voulais faire tchouva, qui va être quelque part comme une garantie de « j'ai pas oublié que je voulais faire tchouva », qui va montrer à Hachem que notre tchouva, elle était sincère. Les rachamim nous disent, tous les rachamim nous disent que cette Kabbalah, elle est essentielle pour sortir propre de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, pour sortir de Yom Kippour totalement nettoyé. Cette Kabbalah, les rachamim nous disent qu'à la Neila, vous savez, donc à la fin de Yom Kippour, la dernière tfila de Yom Kippour s'appelle la tfila de la Neila. Au moment de la Neila, nous allons brandir cette Kabbalah en disant à Kadosh Baruch Hu, « Kadosh Baruch Hu, voilà, je prends sur moi ce petit acte. » Je vais vous donner des exemples. Je prends sur moi, par exemple, de lire le Birkat Amazon sur texte, par exemple. Je prends sur moi de lire quelques Tehillim tous les jours en plus. Je prends sur moi le Shabbat de faire un effort en Tzniout. Je prends sur moi, par exemple, faire Kriyat Shema à la Mita. Le Rav Pinkus recommande, comme Kabbalah, de prendre sur nous, de faire le Kriyat Shema à la Mita. Vous savez, c'est le Shema Israël qu'on dit avant de dormir, avec le Tachanoun pour les... C'est un diote, c'est un texte comme ça qu'on trouve dans le Sidour, de prendre sur moi, de prendre sur nous quelque chose de petit, de prendre sur nous de faire une fila dans la journée, chacune par rapport à son niveau. Mais cette Kabbalah, si on appelle ce mot cette Kabbalah, donc cette chose qu'on prend sur nous, c'est avec ça qu'on va pouvoir prouver à Hachem combien est-ce que notre volonté de revenir vers lui, combien est-ce que cette volonté, elle était forte, elle était vraie, elle était véritable. Et c'est pour trouver une Kabbalah qui va tenir la route, il faut qu'elle soit petite. Parce que vous savez que lorsqu'on est donc comme ça en plein éveil spirituel, à la veille de Yom Kippour, on a l'impression qu'on peut tout faire, qu'on va tout réussir. Et là, Yetzer Hara, il est très fort parce qu'il va nous dire « Ouais, prends sur toi ça et prends sur toi ça. » Et en vérité, on sait très bien que quelque part, que dans l'année, on ne va pas tenir des choses pareilles. On ne va pas réussir si c'est au niveau du temps, si c'est au niveau de l'envie de les faire. Donc, c'est important que cette Kabbalah, elle soit petite, mais aussi petite qu'elle soit, qu'on puisse la tenir et qu'à chaque fois qu'on la fera, ben pas à chaque fois, mais en tout cas, lorsqu'on fera cette chose-là, se dire, voilà, c'était l'acte que j'avais pris sur moi pour prouver à Hachem combien est-ce que je voulais réellement revenir vers lui, combien est-ce que ma tchouba, elle était sincère, tout en sachant que je ne deviens pas un malard. Je suis un malard pendant Yom Kippour, peut-être, je suis comparé à un ange, mais je ne suis pas toute l'année un ange. Toute l'année, j'ai des difficultés, toute l'année, je tombe, toute l'année, je me relève, mais j'ai la preuve de ma bonne volonté. Donc, réfléchissez à une Kabbalah. Personnellement, je suis prête à vous conseiller si vous avez besoin de quelque chose. Et c'est extrêmement important donc, d'arriver à la fin de Yom Kippour avec ce petit acte. Je vais faire avec vous une petite pause maintenant de publicité. On se rejoint tout de suite après. J'espère que vous êtes toujours avec nous. N'oubliez pas, si vous avez quelque chose à nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante, radio@torah-box.com. A tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Organiser un cours avec un rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site ToraBox à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions ToraBox, des livres sur mesure pour vous. ToraBox, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
Alors nous revoilà donc pour la dernière partie de notre émission aujourd'hui, judaïsme au féminin sur Yom Kippour, sur l'essence de cette journée. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, vous avez raté, on a expliqué, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres occasions, il y a des rediffusions et possibilités de réécouter les émissions. Donc on a expliqué combien cette journée était grande. Combien est-ce que nous avons de la chance de pouvoir être pardonnés, de pouvoir être purifiés, de pouvoir être nettoyés de toutes les fautes que nous avons pu faire? Combien est-ce que c'est un cadeau d'Hachem? Et dans cette troisième partie, j'aurais aimé analyser avec vous un passage de la Tfila. Ce passage de la Tfila est un passage qui apparaît 26 fois dans la prière de Yom Kippour. Et il s'agit donc du passage des 13 attributs de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et oui, dans la Tfila de Yom Kippour, on lit à 26 reprises les 13 attributs de bonté d'Hachem. Et d'ailleurs, il n'y a pas que dans la journée de Yom Kippour qu'on le lit, il y a également dans toute la période des Slichot, les hommes lisent également ces 13 attributs de bonté. Alors, il faut, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ces 13 attributs viennent nous apprendre? Pourquoi est-ce que c'est important de les lire autant de fois? Pourquoi est-ce que c'est important de les comprendre? On va un petit peu faire un petit rappel historique, parce qu'en réalité, il faut comprendre d'abord que ces attributs ont été dévoilés à Hachem, ont été dévoilés à Moshe Rabbeinu par Hachem après la faute du veau d'or. Mais avant de vous expliquer au niveau historique comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils viennent nous apprendre et surtout quel intérêt de les lire, je vais vous les lire avec la traduction et ensuite on va essayer un petit peu de comprendre parce que c'est, étant donné que c'est un passage qui revient beaucoup dans la Tfila, ça peut nous aider réellement à d'abord sentir la Tfila et puis comprendre beaucoup de notions essentielles au niveau du pardon, au niveau de notre rapport avec Hachem, au niveau de l'amour qu'Hachem nous porte. Il y a beaucoup de notions autour de ces 13 attributs de bonté. Donc d'abord je vous les lis et je vous les traduis. Hachem, Hachem, éternel, éternel. Quel? Tout-Puissant, Rachum, miséricordieux, Vechanun, et clément, Erech, lent, Apaim, à se mettre en colère. Vous savez que normalement, une femme qui n'est pas dans une synagogue avec un minyan d'homme n'a pas le droit de lire ses 13 attributs comme ça en une fois. C'est pour ça donc que je m'interromps et je traduis en même temps. Vérav, et abondant, Chesed, en grâce, Vehemet, et en équité. Notzer, il conserve, récède sa grâce, la Alafim jusqu'à 2000 générations. Nosé supporte, Avon, le péché volontaire, va Fécha et la rébellion, Vechata'a et la faute involontaire, Vénaké et efface les fautes si on se reprend. Donc, je vous ai ici donc donné la traduction du Marzor, porte de la délivrance. Je suppose qu'il y a plusieurs traductions possibles. Il y a également différentes manières de compter ces 13 attributs. Donc là, on a utilisé une des manières de les compter. Il y en a 13, si vous avez bien suivi. Alors, je vous explique. Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que le jour donc de Shavuot, les Juifs ont reçu la Torah au Mont Sinaï. C'était le Sissivan. Après avoir donc reçu les 10 commandements, Moshe est monté chercher les louchot, les tables de la loi, sur le mont Sinaï, et les juifs devaient attendre. Malheureusement, le Yetzer Hara s'est mêlé, et au bout donc de 40 jours, les juifs ont eu l'impression que Moshe, ont cru, ils ont fait un mauvais calcul, ils ont pensé que Moshe était mort et qu'il ne reviendrait plus, et donc ils ont fabriqué le fameux veau d'or. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'était le Yetzer Hara, il leur a fait voir en mirage comme ça le lit de Moshe, comme quoi Moshe était mort. En fait, il les a poussés donc à fauter, ils sont tombés dans la faute, ils ont fabriqué le veau d'or. Et donc, Moshe Rabbeinu redescend avec les tables de la loi dans les mains, et il voit le veau d'or, et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il jette par terre, il jette les tables de la loi. Parce que faut dire que c'était très 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 décevant pour Moshe de voir une chose pareille. N'oublions pas que au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah, les Juifs avaient vécu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très très élevé. On dit que tout le monde s'était arrêté, les oiseaux avaient arrêté de chanter, tout le monde était comme ça à un niveau, les Juifs avaient atteint le niveau d'Adam Harishon avant la faute au moment du don de la Torah. Et entre guillemets, en si peu de temps, retomber donc dans de la Avodah Zarah, dans le fait de fabriquer un veau d'or, c'était quelque chose de très très dur, et donc les tables de la loi sont brisées. Et Moshe, évidemment, on sait que Moshe, c'est toujours celui, l'amoureux du peuple juif, qui va toujours tout faire pour eux, décide d'aller remonter sur le mont Sinaï pour convaincre Akadosh Baruch Hu, pour en fait convaincre Akadosh Baruch Hu de pardonner au Bnei Israël, de pardonner aux Juifs. Et voilà que donc Moshe remonte, et Moshe pleure, et Moshe supplie, et Moshe essaye par tous les moyens d'obtenir le pardon, et Baruch Hashem, il réussit. Il réussit, évidemment, les Bnei Israël également font tchouva de leur côté, et Moshe se voit entend Bassof dans les mots d'Hachem, les fameux mots tellement puissants, ça l'arti qui dvarecha, j'ai pardonné comme ta parole. En fait, donc, Hachem déclare, annonce à Moshe qu'il a pardonné au Béni Israël la faute du veau d'or. Ce jour-là était le 10 du mois de Tishré. Depuis, tous les 10 du mois de Tishri, il y a un potentiel de pardon dans le monde. Il y a une possibilité donc de se faire pardonner, de se faire expier ses fautes, puisque comme je vous l'ai dit, une fête ne vient pas uniquement en souvenir d'un événement passé, mais parce que nous revenons à son contenu originel. Le contenu originel de cet espace-temps appelé Yom Kippour, 10e jour du mois de Tishri, a un potentiel donc de pardon. Maintenant, Moshe, il sent que le moment est favorable. Il sent que Akadosh Baruch Hu, il est en train de, il est favorable au Bnei Israël. Et donc, Moshe se dit, c'est le moment ou jamais de faire une demande. Et Moshe va demander, va dire à Akadosh Baruch Hu, puisque tu as pardonné les Bnei Israël, je veux exploiter ce moment et je veux te demander, Hachem, dévoile-moi ta gloire. Je veux te connaître encore mieux. Je veux que tu te dévoiles à moi encore mieux. Pourquoi ? Parce que si je te connais mieux, Hachem, je pourrai encore mieux te servir. Et les Juifs aussi pourront également mieux te servir. Plus on connaît une personne, plus on peut se rapprocher d'elle, plus on peut être proche d'elle. Et en fait, c'est ça, le but de Moshe Rabbeinu était de mieux connaître Hachem pour lui-même et les Bnei Israël arriver à mieux le servir. Et donc, Hachem accepte. Et il dévoile à ce moment-là à Moshe Rabbeinu ses 13 midot harachamim, comme on dit, ses 13 attributs de bonté. En fait, les Chachamim, les Midrashim, la Gemara, tout le monde nous explique comment ça s'est passé. On dit que, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que c'est écrit, que Moshe, que Dieu s'est enveloppé d'un talit et qu'il a donc dit à Moshe, voilà les 13 attributs de bonté, et sache que lorsque les Juifs feront ces 13 attributs, diront ces 13 attributs comme je te le montre maintenant, alors leur tfila ne reviendra pas vide. C'est une sorte d'alliance que je fais avec eux. Et donc, les Chachamim m'expliquent beaucoup, ça veut dire quoi que Dieu s'est enveloppé d'un talit. Et les Chachamim, Laura Friedlander, entre autres, nous expliquent que Hachem, en s'enveloppant d'un talit, il a voulu nous montrer comme un chazan à la synagogue. Vous savez que à l'époque, le chazan à la synagogue, c'était quelqu'un qui montrait au peuple comment prier. Le peuple, c'était des gens simples, ils ne savaient pas forcément comment on prie. Et le chazan, c'était celui qui leur montrait comment on prie. Et donc, lorsque Hachem, entre guillemets, s'enveloppe, c'est le mot qui a été employé, avec Tatef, il s'enveloppe comme ça d'un talit, et qu'il se concentre et il dit à Moshe, donc c'est quoi les 13 attributs de bonté? On apprend de là qu'il explique à Moshe combien est-ce que c'est important de se concentrer, parce que le talit posé, il permet de se concentrer, de ne pas regarder sur les côtés. Et donc, c'est un premier enseignement que Hachem, à ce moment-là, dévoile à Moshe. En fait, il demande, pour Hachem, le fait de dévoiler ça à Moshe, ça va être le moyen donc d'arriver aux Juifs, que les Juifs comprennent ces grands principes de Tfila. Donc, s'envelopper dans un talit, c'est-à-dire que lorsqu'on prie, on est totalement concentré dans ce qu'on dit, on est complètement concentré dans le fait qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, qu'on s'adresse au maître du monde. Et ces 13 attributs de bonté, en fait, Dieu nous demande de les dire, de les lire, de les réciter, et que le fait de les lire et de les réciter, ça va nous ouvrir des portes. Parce que Hachem, il est tellement bon que il nous permet d'être des agents actifs dans la manière dont il gère et dont il commande ce monde. À travers le fait que nous prononcions les attributs de bonté d'Hachem, nous nous attirons ces 13 attributs de bonté. Ces attributs de bonté, il faut les lire, il faut les comprendre, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que toute notre vie dépend de ces 13 attributs de bonté, que toute notre existence dépend de la bonté infinie d'Hakadosh Baruch Hu envers nous. Et donc, c'est une très 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 grande leçon qu'Hachem enseigne ici à Moshe Rabbeinu et qui nous enseigne à nous également à Yom Kippour. Il nous apprend combien est-ce qu'on doit sentir que Hachem c'est tout pour nous. Combien est-ce qu'on doit prendre conscience que on ne peut rien sans sa bonté, on ne peut rien sans son amour, on ne peut rien sans sa rachamim, sans sa miséricorde, on ne peut rien avec tout, avec lui on peut tout, sans lui on ne peut rien. Et donc Hachem enseigne ça à Moshe Rabbeinu en lui faisant donc comprendre combien est-ce que c'est important d'enseigner ça au Bnei Israël, que les Juifs comprennent les 13 attributs de bonté, étudient. Donc c'est important également pour celui qui aura le temps d'essayer de les comprendre un par un. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ces attributs de bonté, vous pouvez chercher et essayer de comprendre combien est-ce que la bonté d'Hachem est grande et infinie. Le fait donc, on a dit donc de les lire, le fait de les comprendre, le fait d'en prendre conscience, parce que en réalité, lorsque je prends conscience que ma vie dépend d'Hachem, lorsque je m'en remets à Hachem, lorsque je développe en moi, ce que nous explique Laura Friedlander, lorsque je développe en moi le bitachon, la confiance absolue dans la bonté d'Hachem, lorsque j'apprends à ne me tourner que vers Hachem, à savoir que si je dois me tourner vers des êtres humains, vers des médecins, vers des psychologues, vers des avocats, etc., ce ne sont que des intermédiaires, il ne s'agit que d'une nishtadlut, d'un effort à faire pour, entre guillemets, pouvoir dire j'ai fait l'effort, mais qu'en vérité, toute notre confiance, elle doit être uniquement dans la bonté et dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Donc, il ne s'agit pas uniquement de les dire, il s'agit, oui, de les prononcer, il s'agit de les comprendre, il s'agit d'en prendre conscience, il s'agit d'y croire, il s'agit de développer notre émouna et notre bitachon dans la bonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait que Aboté Arba Hachem, Chesed Yesovevenu. David Ameller, il nous dit que celui qui a confiance en Hachem sera entouré de Chesed, de grâce et de bonté. Donc le fait que je mette ma confiance en Hachem et que je développe en moi la Emouna, la confiance, la foi dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, je permets à Hachem d'être miséricordieux envers moi. Et c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est extraordinaire parce que en réalité, Dieu, il est le maître du monde, il pourrait gérer ce monde comme il l'entend et puis c'est tout. Mais non, Hachem il a décidé que nous devions, que nous pouvions, que nous avions en tant que ses enfants la possibilité d'influencer sa hanaga, d'influencer sa conduite sur le monde à travers le fait que nous lui faisions confiance, nous attirons sa bonté sur le monde. Et c'est très très très, donc c'est une des leçons très importantes à Yom Kippour, c'est-à-dire que pour pouvoir se faire pardonner, il faut réaliser combien est-ce que le pardon c'est le fruit de la bonté d'Hachem. Et il faut y croire également. Une personne qui n'y croit pas, alors elle se met des barrières, elle se met des écrans entre elle et Hachem. Il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu va réellement nous pardonner parce qu'il est bon et que sa bonté elle est infinie. Le Rav Friedlander, il explique que c'est pas tout, que ça ne suffit pas donc de les lire, on a dit les lire, les comprendre, prendre conscience, avoir confiance, mais également chercher à nous aussi être bons et miséricordieux comme Akadosh Baruch Hu. C'est entre guillemets la fin de la dernière étape donc de l'importance de ces 13 midot, mais c'est également l'étape essentielle. Le Rav Friedlander, il dit, ça ne suffit pas de les lire et d'en prendre conscience et de faire confiance à Dieu, il faut également nous-mêmes chercher à être comme Akadosh Baruch Hu, bon à l'infini envers l'autre. Donc il s'agit ici de toute notre relation à l'autre. De nouveau, ça revient, c'est pas la première fois que je vous parle donc de la place que l'autre tient dans notre tshuva, dans la tshuva de Yom Kippour, dans la tshuva de toute cette période que nous avons vécue depuis Rosh Chodesh Elul. Mais là, réellement, ces 13 attributs de bonté viennent également nous sonner, entre guillemets, la sonnette d'alarme. Toi aussi, tu dois être bon comme Hachem, parce que si tu ne ressembles pas à Hachem dans ces midot, ça va aussi bugger, ça va aussi entraver la tshuva. Donc, il y a dans ces 13 attributs, le fait de les lire, donc beaucoup, beaucoup de force, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de leçons, et ça fait partie de notre préparation à Yom Kippour. Vous savez qu'on peut pas rentrer dans une fête sans se préparer. Rien que le fait que vous m'avez écouté aujourd'hui, c'est extraordinaire, et je vous dis kola kavod, parce que on est tout occupé, Baruch Hashem, et le fait d'écouter une émission sur Yom Kippour, ça prouve déjà notre bonne volonté de se préparer, d'avoir la tête un petit peu concentrée sur ce qui arrive, etc. Et donc, rentre également dans cette préparation le fait d'ouvrir un marzor, le fait d'ouvrir un livre de prière de Yom Kippour et de jeter un coup d'œil à ces 13 attributs. Sur ce, je vous souhaite un excellent jeûne. Je souhaite que Bezrat Hashem, ma chère, soit là et que nous ayons le mérite de voir le Melech HaMashiach, le troisième Beth Amikdash reconstruit très 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 rapidement et que tout ça dans la joie. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes nouvelles à toutes et je vous rappelle que si vous voulez nous envoyer un message, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante radio@torah-box.com. Je vous souhaite des bonnes choses et à bientôt. יהי רצון מלפני אבינו אבינו שבשמיים שתתמלא רחמים על החתן והכלה היקרים יהי רצון מלפני אבינו אבינו שבשמיים שתתמלא רחמים על החתן והכלה היקרים חיים של שלום שלווה חיים של אושר ואושר חיים של כבוד חיים של שלום יהי רצון שתתמלא רחמים על החתן ו...